la une en Israël ce matin, Lise, on va faire un point sur le calme très relatif avec l'Iran, ainsi que sur l'entrée des premières forces du Conseil de la paix à Gaza. Et pour en parler avec vous, eh bien, Meir Dahan, bien sûr, colonel de réserve de Tsahal, qui comme d'habitude a accepté notre invitation. Je vous laisse en parler avec lui.
Meir Dahan, bonjour.
Bonjour Lise, bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, vous craignez la reprise des frappes avec l'Iran pour ce week-end. Finalement, il ne s'est rien passé. Benjamin Netanyahou s'envole pour Washington et donc tout le monde attend en fait la décision de Donald Trump. Et pourtant, Meir, on se dit que ça n'est pas possible de terminer cette guerre comme ça.
Tout à fait, c'est quelque chose, c'est choquant, mais je l'ai prévu, si vous vous souvenez, Lise, on a parlé de ça, et j'ai vu que ça se maintient d'une façon très modérée, il va pas jusqu'au bout, et il se concentre sur le passage d'Hormuz, qui est vraiment étonnant, c'était jamais le but de cette guerre, mais bon, on verra où ça va aller. Chose qui est sûre, c'est que les Iraniens eux-mêmes vont pas le laisser tranquille, ça c'est clair. C'est déjà commencé.
Alors, donc, non seulement, a priori, ils ont effectivement continué pendant toute cette période, mais aussi, ils ont demandé également aux Houthis d'essayer de mettre la pression sur un axe, pas le détroit d'Hormuz, mais le détroit de Bab el-Mandeb. Bon, alors, les Houthis, ils n'ont jamais vraiment disparu de la circulation, mais ils n'étaient pas très présents ces derniers mois dans cette campagne. Et là, par contre, est-ce qu'ils ont récupéré des forces, puisque c'est un proxy terroriste de l'Iran, eux aussi?
Ça fait un moment qu'ils servent plus comme proxy, mais ils ont leur propre initiative, les Houthis. Mm-hmm. Maintenant, je demande tout le monde de se poser la question. Est-ce qu'on peut vivre avec un blocage sur ces deux parties-là de Bab el-Mandeb et Hormuz? Est-ce qu'on peut vivre avec ça? La réponse est claire et non. Et donc, c'est question de temps que ça va exploser à nouveau, c'est clair.
Alors, est-ce que le véritable but de cette guerre, selon vous, Meir Dahan, c'est de faire tomber le régime des Mollahs?
Je crois que ça se fait à chaque moment. Ça n'a jamais cessé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent sous terrain. Et au fur et à mesure, ça se développe. La preuve, il y a un accrochage interne en Iran entre la partie des gardes révolutionnaires et la partie civile, l'armée et les autres. C'est vrai qu'ils parlent aussi très haut, l'armée et tout le monde, mais à l'intérieur, on sait qu'il y a une grande crise entre eux, car le garde révolutionnaire ont pris complètement responsabilité et ils ont pris toute la capacité de décision en Iran. Alors que Khamenei ne réagit pratiquement plus, ce conflit s'accentue de plus en plus. On attend que ça explose, oui.
Alors, on parle de nouvelles alliances potentielles, mais on dit que pour pouvoir combattre l'Iran, d'un côté, les monarchies du Golfe essayent d'acheter de l'armement aux États-Unis et de se rapprocher des États-Unis, et Israël essaye de son côté justement aussi de renforcer la coopération avec ces États du Golfe. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus?
C'est déjà fait, ça fait un moment, ça fait des années que les liens sont là. Et c'est vrai que ça prend des formes beaucoup plus intéressantes au fur et à mesure que ça développe. Et je crois que toute la région a compris qu'il faut compter sur eux-mêmes et pas les Américains ont leur façon de voir les choses qui va pas jusqu'au bout. Et c'est à eux de trouver la solution. Et donc, eux, c'est nous. On a compris qu'on est liés l'un à l'autre. C'est clair. Mais ça a toujours été clair, d'ailleurs. Ça a toujours été clair.
On parlait aussi d'un potentiel rapprochement avec les Égyptiens. Est-ce que vous croyez qu'effectivement, Jérusalem et le Caire peuvent avoir des intérêts alignés?
Ça fait 40 ans qu'on a ces intérêts alignés. On les a. D'ailleurs, sur le terrain, ça se passe très merveilleusement, mais sur les déclarations et l'officiel, c'est différent. Il y a qu'à espérer. Je crois que les Égyptiens sont beaucoup, beaucoup de notre côté, dans le même conflit. Eux aussi, ils n'aiment pas l'infrastructure turque qui se met dans la région. Ils n'aiment pas ça du tout. C'est les frères musulmans qui sont leur plus grand ennemi. Et quoi qu'on a beaucoup, beaucoup d'intérêts en commun.
Alors justement, Meir, il y a deux façons de voir les choses là-dessus. On en parlait dans le journal. Il y a des gens qui disent effectivement que la collaboration entre Israël et le Caire peut contrebalancer l'ingérence d'Ankara dans la région. Et il y a les autres qui disent au contraire que même si Abdel Fattah al-Sissi et Recep Tayyip Erdogan ne s'aiment pas, la Turquie et l'Égypte, ces derniers temps, ont commencé à faire une coopération technologique militaire et que, ils pourraient passer à une intégration plus structurelle de leur coopération. Vous faites partie plutôt des premières personnes?
Je suis plutôt de première personne, surtout parce que je suis optimiste. Et j'espère que ça ira pas jusque-là, car en fin de compte, n'oublions pas qu'il s'agit de pays idéalistes qui jouent une idéologie et que l'idéologie gagnera par-dessus la logique. Assisi le sait, il a payé très cher pour ça. Et il sait que ça finira par le relève de frères musulmans chez lui, chose qu'il peut pas se permettre.
Alors, deuxième dossier, Meir, dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est à Gaza. On est censé avoir ce Conseil de la paix qui commence, entre guillemets, sa mission à Gaza et peut-être même également dans cette première mission potentiellement des Marocains et des Ougandais sur le terrain qui pourraient essayer de prendre une première zone qui ne serait pas dans les mains du Hamas et qui peut servir de test. Comment vous voyez les choses sur le terrain à Gaza?
Très compliqué. Je vois pas comment ils vont prendre tout ça en charge, mais je l'ai toujours dit, le seul espoir dans cette région, c'est d'avoir des unités actives étrangères qui viendront sur place pour maintenir l'ordre le temps que la rééducation sera mise en place. Et là, je viens de dire un procédé de 30-40 ans. Est-ce que ça va démarrer? J'espère bien. Ouais, il faut. Et, de toute façon, il n'y a pas une autre solution. L'autre solution, on la connaît, c'est 7 octobre. Donc, il faut espérer aider au maximum pour que ça arrive.
Et ma dernière question, ce sera justement sur Gaza. La condition d'Israël, c'était le désarmement du Hamas. Les États-Unis n'en parlent pas trop dans ces affaires de négociations avec le Conseil de la paix. Eux, pendant ce temps-là, ils essayent de récupérer du pouvoir, notamment sur les civils palestiniens. Est-ce que Tzal envisagerait de revenir du coup à Gaza si c'était nécessaire?
Tout dépend des actions de Hamas. Ils vont être agressifs plus qu'ils sont aujourd'hui. Et ils ne nous laisseront pas le choix, mais j'espère qu'on n'arrivera pas là. De toutes les façons, ils sont loin, loin de leurs capacités précédentes. C'est vrai qu'au point de vue civil, ils ont pris la responsabilité sur place immédiatement. Ça n'a jamais cessé, d'ailleurs. Mais est-ce qu'ils ont les mêmes moyens de fabriquer leurs munitions et leurs armes? Non. Plus aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont ravitaillés comme ils étaient auparavant? Non. Est-ce qu'ils sont bâtis comme auparavant? Non. Alors, tout ça, il faut en profiter, bousculer au maximum afin de les rendre une partie politique et c'est tout. Il faut comprendre, je rappelle à chaque fois, un point principal. Il y a 2 millions de Hamas à la bande de Gaza. C'est une question idéologique religieuse. Et tout le monde appuie cette idéologie. Donc, on a un problème avec le Gaza. C'est pas un problème de Hamas. Hamas, c'est une solution, c'est un résultat de peuple de Gaza.
Merci beaucoup, Meir Dahan, colonel de réserve de Tzal,
Merci,
d'avoir été
Lise.
avec nous ce matin pour répondre à toutes ces questions. Bonne journée à vous, à très vite.
Merci, à bientôt.